vous ce soir. Je suis d'autant plus content de te recevoir que j'ai eu moi-même le... Donc tu es directeur et fondateur de Mediapart, je le rappelle, et que j'ai eu le plaisir de travailler quelque temps avec vous à Mediapart, 6 mois, et que tes textes et le travail de Mediapart font partie des choses qui ont forgé moi-même ma propre conscience politique. Donc je suis content de pouvoir boucler la boucle un peu ce soir. Donc aujourd'hui, on va parler de la révolution numérique dans ce cycle consacré à la 6e République. Quel est le rapport entre le numérique et la République ? Il y a plusieurs ordres. Tout d'abord, Internet transforme notre rapport à l'information, au savoir. Internet bouleverse l'économie de la publication dans nos sociétés. Internet redessine le périmètre de l'espace public et donc Internet change les termes de la chose publique, de la res publica. Et cette question est d'autant plus importante qu'on voit qu'elle prend des tournures tout à fait géopolitiques avec l'affaire de la NSA et d'Edward Snowden, etc., dont tu vas nous parler, je pense. Donc je te donne une heure, pour développer ton exposé et pour avoir le temps après d'avoir un échange conséquent avec la salle qui est venue nombreuse ce soir.
Bien, bonsoir à tous et merci de cette invitation. En effet, que au-delà du lieu et du caractère le plus officiel de l'invitation, je devais amicalement à Clément. Clément, en effet, avant d'être Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle sur Twitter, a été Mediapartien et a animé, contribué à l'animation du club participatif de Mediapart. Je vais essayer de faire un exposé de, comme j'ai compris que c'était un cycle un peu de, au fond de discussion, de réflexion. Je ne vais pas faire un exposé classique. Je vais essayer de poser une réflexion qui est derrière ce que vous voyez, c'est-à-dire un journal, la démarche d'une équipe et évidemment un itinéraire personnel. Derrière cette réflexion, je voudrais dire en introduction qu'il y a à la fois l'idée que la politique ne se ramène pas aux partis politiques, que la politique est un bien commun et que la politique nous requiert, où que nous soyons, dans notre travail et dans les responsabilités que nous prenons là où nous sommes. Deuxièmement, je voudrais dire en introduction que derrière ce que je dirais, je ne vous parlerai pas de Mediapart, je ne vous parlerai pas de moi, je ne vous parlerai pas de Mediapart, je ne vous parlerai pas de moi, mais derrière ce que je dirais, il y a évidemment cette idée que il faut donner au journalisme les moyens de se battre. Et une réflexion sur les conditions qui permettent aux journalistes de se battre et d'affronter les défis qui sont les leurs dans un moment d'immense bouleversement où, pour la plupart, ils ont dans les entreprises d'information le dos au mur. Enfin, je voudrais dire que nous vivons des temps de transition à tout point de vue et que dans ces temps de transition, ceux qui inventeront le futur, futur politique, mais aussi des inventions artistiques, des inventions économiques, des inventions culturelles, sont ceux, comme en tout temps de transition, qui seront alliés le meilleur de la tradition et les audaces de la modernité. Pour comprendre ce que je veux dire, je prendrai au fond ce qui est dans les musées aujourd'hui, quand on va dans des expositions et que l'on regarde ce qui fut le mouvement surréaliste, dans cette période terrible qui fut celle de la catastrophe européenne et des 30 ans de la double guerre mondiale, des crimes contre l'humanité, d'une destruction. Et l'on voit bien dans l'itinéraire du mouvement surréaliste et de ceux au sens large, puisque Picasso n'en était pas, mais on pourrait le lier à tout cet ébranlement de l'art par cet art moderne, eh bien, on a vu comment ils ont su à la fois être dans une audace totale, brisant les codes, inventant et qu'en fait, il le faisait en même temps avec une haute idée de la tradition, du meilleur de la tradition.
Je vous prends un exemple, c'est les collages. Quand on voit une exposition Braque qui vient de s'ouvrir, quand on voit ces collages chez Picasso, bah aujourd'hui on voit que derrière des tableaux de Ingres, il y avait des collages. On voit comment ils ont relu la tradition.
Je pense que nous sommes en politique, pris au sens large, puisque la politique est un bien commun, dans ce même moment. Comment défendre le meilleur de la tradition au cœur de la modernité? Comment ne pas nous mettre sur un aventin face à une modernité qui nous ferait peur, face à laquelle nous devrions nous barricader, pensant que tout est foutu, que tout est régressé, que tout est destruction? Ou à l'inverse, aller au fil de l'eau d'une modernité qui en soi serait libératrice, sans y défendre quelques principes? Donc, voilà la politique comme bien commun, le journalisme, comment se battre, et l'alliance entre tradition et modernité. J'exposerai cela en deux points, conformément au fond à l'intitulé de cette réflexion collective ce soir. D'abord, qu'est-ce que j'entends par révolution numérique? Et ensuite, qu'est-ce que je veux dire par révolution démocratique? Et je conclurai évidemment par rapport à des enjeux liés à votre cycle, la réflexion sur une 6e République et sur une refondation de la République. Sachant qu'il faut s'entendre déjà sur ce mot de République au départ. La République n'est pas une fixité, n'est pas une immobilité, n'est pas une donnée, n'est pas un héritage. La République, c'est un mouvement, c'est une dynamique, c'est une création permanente, toujours inachevée, toujours à inventer. Quand j'entends dire, par rapport à des polémiques récentes, « Mais comment pouvez-vous contester tel ministre de l'Intérieur? C'est un républicain. » Alors qu'il ébranle quoi? Il ébranle ce que la République a inscrit en 1944-1945 au cœur du préambule de notre Constitution. Mais il a fallu un siècle pour qu'elle l'inscrive. Et il a fallu quelques montagnes de cadavres. La République ne fait pas de distinction selon l'origine, la race et la religion. Et il est évident que quand on essentialise une partie de ceux qui vivent dans ce pays au nom de l'origine, on brise cette constitution, on viole les principes, on est un délinquant constitutionnel, comme le fut Sarkozy et comme l'est Manuel Valls en disant cela. Mais le rappel qui m'importe, c'est qu'il n'a pas été donné que la République fut déclarée démocratique et sociale dès l'origine. En 1848, il y avait des affiches, la République démocratique et sociale. Mais ça ne fut pas au fronton de la Deuxième République qui a réprimé les ouvriers, ça ne fut pas au fronton de la Troisième République, et qui fut une incessante bataille pour inventer la République. Et il a fallu, encore une fois, la catastrophe européenne pour que, dans notre Constitution, alors que nous savons qu'elle l'est insuffisamment, c'est le moins qu'on puisse dire, il soit inscrit que la République est démocratique et sociale. Donc la République, c'est un mouvement, c'est une dynamique. Il n'y a pas des gardiens du temple. La République nous retire comme un mouvement, comme un chemin qu'on doit construire. Et c'est le sens de ce que je veux expliquer en parlant d'une réalité, la révolution numérique, et de ce qu'elle requiert comme révolution démocratique. J'en viens donc à mon premier point, la révolution numérique. Derrière ce mot « révolution », il y a ce que les historiens ont appelé, au fond, les révolutions industrielles. C'est un mot pour essayer de faire comprendre une réalité de notre modernité, de notre âge moderne, c'est-à-dire celui qui commence avec le XVIIIe siècle, où s'accélère le rapport au temps et à l'espace. On a toujours dit que les armées de Napoléon, au début, elles ne vont pas plus vite que les armées de Jules César. Ce qui caractérise notre âge moderne, depuis plus de deux siècles, c'est cette accélération du rapport au temps et à l'espace. Un temps qui va plus vite et un espace qui est plus restreint. On peut définir trois révolutions industrielles. À chaque fois, une invention technologique, une invention industrielle qui se diffuse, et un ébranlement progressif de l'économie, de la société, de la culture, des rapports entre nations, des nations qui se saisissent de cette révolution industrielle et qui deviennent plus puissantes que d'autres, d'autres qui déclinent, le travail et le capital qui s'affrontent, des richesses nouvelles qui se créent, d'autres qui sont détruites. C'est ça une révolution industrielle. Et l'issue n'en est jamais donnée. Première révolution industrielle, moteur technologique, la machine à vapeur. fin 18e, début 19e. Cela correspond à le début du mouvement des campagnes vers les villes, de la construction de l'armée de réserve industrielle, les ateliers, les canuts qui se révoltent parce qu'on détruit leurs vieilles machines, et puis du coup la question sociale qui surgit, et puis le prolétariat, le socialisme, ces idéaux-là, tout cela va ensemble. Ce mouvement qui va de la fin du 18e, des idéaux démocratiques, des révolutions démocratiques, au surgissement de la question sociale. Et au départ, le chemin de fer, on pourrait dire que, quand je dis la machine à vapeur, que la vitrine de cette révolution industrielle, c'est le chemin de fer, qui sert aussi bien à déplacer les hommes que les armées, et à circuler, à ne plus être dans la fixité, dans l'immobilité des communautés paysannes. Deuxième révolution industrielle, fin 19e, début 20e, moteur technologique, l'électricité, basculement de l'Europe aux États-Unis, invention américaine. Du coup, début bientôt du siècle américain, invention d'une autre organisation du travail. On parlera du Fordisme, Henry Ford, la voiture, l'automobile, on a dit la machine à vapeur, et le chemin de fer, l'électricité, eh bien l'automobile, la voiture personnelle, le déplacement, mais aussi cette division du travail. Et puis, ce basculement géopolitique du monde. Mais aussi, du coup, ça correspond à l'âge de l'accélération du partage du monde, la projection coloniale de l'Europe. Et en même temps, ça correspond à un nouvel âge démocratique, les conquêtes par les lois de la Troisième République. Et puis en même temps, cela correspond à ce qui précipitera la vieille Europe dans la catastrophe. Troisième révolution industrielle, pareillement, fin 20e, début 21e. Pareillement, à cheval sur deux siècles. Moteur technologique, tout ça prend du temps à se diffuser. Eh bien, le numérique, le digital. Ça commence avec des gros ordinateurs, ça commence à cheval entre les recherches militaires et puis la société en Californie. Et puis aujourd'hui, ça donne ces objets nomades, ces objets que vous avez tous, cette circulation de l'image, de la parole, etc. Et ça permet... toujours rapport au temps et à l'espace, vitrine, le numérique, Internet, eh bien, de communiquer en temps réel. Et pareillement, bouleversement géopolitique, crise d'un vieux monde, destruction de richesses, création d'autres richesses, le débat sur les délocalisations, tout ça rend compte. C'est-à-dire que derrière ce que nous traduisons en termes d'enjeux politiques, il y a des réalités matérielles qui sont au cœur non pas seulement du capitalisme, de sa marche, mais de l'ensemble du bouleversement de nos sociétés. Si je rappelle ça, c'est concernant l'information, c'est que ces trois révolutions correspondent à trois temps. On pourrait dire que la première révolution industrielle, dans l'âge démocratique, correspond à l'invention du journalisme d'opinion, la liberté d'expression, le publiciste, la défense du pluralisme des opinions. On pourrait dire que la deuxième révolution industrielle, pour des raisons très concrètes, elle correspond au moment où on va finir par alphabétiser. Toute la France, au XIXe siècle, n'est pas alphabétisée, ne sait pas lire et écrire. Donc en même temps qu'il y a la loi de 1881, fondatrice de la liberté de la presse dans notre pays, il y a les lois scolaires. Sachez, lire, écrire, compter, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, grâce à l'électricité, qui correspond aussi aux États-Unis à l'invention de la rotative, émergence de la presse de masse. Avant, la presse, c'était une presse de gens privilégiés, de gens qui n'étaient pas forcément journalistes, qui pouvaient faire de la politique, de la littérature. Et là, la presse de masse, ben, c'est la presse à un sou, c'est la presse à un franc, c'est la presse qu'on lit, c'est la presse, c'est dans le journal, c'est le début d'un espace public démocratique. Et du coup, émergence d'une nouvelle figure du journalisme, non plus le journalisme d'opinion, mais le journalisme d'information, celui qui apporte des faits, celui qui va être reporter, celui qui va vous raconter ce que vous ne savez pas. Et puis on pourrait dire aujourd'hui, nous en sommes au linéament, avec cette nouvelle révolution industrielle dont la vitrine est Internet, mais Internet, au cœur de son moteur technologique, vous avez ce qu'on appelle le lien hypertexte. C'est ce qui permet de faire des mails, c'est ce qui permet de joindre des documents, c'est ce qui permet d'aller voir une source, c'est ce qui permet de se promener dans cette forêt vierge. Et on pourrait dire, invention, j'y reviendrai, du journalisme de relation, du journaliste qui met en relation. qui à la fois fait de l'opinion, qui à la fois fait de l'information, mais qui met en relation, des contenus, qui met en relation des gens. Pourquoi je pars de là, je pars de si loin? Parce que je crois qu'il faut qu'on ait conscience de, profondément, de manière rationnelle, hein, de ce qui nous ébranle. Et il faut qu'on en ait conscience en se disant que la technique, la technologie n'est jamais libératrice en soi. Chemin de fer, déplacer les hommes, découvrir des pays, ne plus être condamné à être emprisonné dans une fixité et un déterminisme d'une communauté, mais aussi déplacer des canons, déplacer des armées, envahir d'autres pays. La deuxième révolution industrielle, ben, c'est celle qui finira par inventer les armes de destruction massive. Donc nous savons qu'il y a dans ce moment-là des progrès et des regrets, qu'aucun monument de culture n'est forcément totalement de culture, qu'il y a aussi la barbarie, elle peut être là. Que dans la technologie, il y a toujours ce côté, cette double face. Et donc c'est une bataille politique. Quel va être l'usage de la technologie ? Et c'est évidemment ce que montrent les révélations récentes. Mais les révélations récentes, elles ont été annoncées par le livre de Julian Assange, fait avec des Français, ceux de la Quadrature du Net, qui est paru en français en début d'année, avant les révélations de Snowden. Et qui disait, lui, Julian Assange, venu du, comme les activistes, avec un H, hein, les activistes du Net, et lui qui a défendu la dimension libératrice d'Internet, dans une stratégie du faible au fort, cette dimension de diffusion horizontale de l'information, bombarder d'informations des puissances, les mettre à nu, et du coup les dévoiler. Et en même temps, son cri d'alarme était de dire, eh bien cet Internet qui pouvait nous libérer est aujourd'hui devenu une très grande menace. Car c'est une menace, ils peuvent totalement nous contrôler, nous surveiller. Nous sommes, pareil, dans cet aspect bifronce, une possibilité démocratique immense et en même temps une menace dangereuse. Donc c'est une bataille. C'est une bataille entre nous, les citoyens, l'usage que nous en ferons, les lois que nous obtiendrons, les revendications que nous promouverons au cœur de la puissance publique et de l'autre côté, à la fois les États et les marchands qui ont leurs propres intérêts dans ce moment-là. Dans ce moment, pour cette image de révolution industrielle, par rapport au secteur dont je parle, la presse, partir de si loin permet de mieux comprendre. Dans beaucoup de débats au sein des métiers de l'information, on a l'impression de gens qui sont comme des lapins pris dans les phares, qui du coup tournent derrière les techniques, derrière la modernité, les modèles sans essayer de penser la situation. Mais si on part de si loin, on peut mieux la comprendre. Oui, oui, une certaine presse est condamnée. Oui, elle est condamnée. Quand vous avez une invention technologique qui supprime trois coûts, le papier, et c'est écologique, l'impression, et c'est une industrie lourde, la distribution, et c'est un poteau noir avec les invendus, elle a forcément l'avenir derrière elle. Quand vous achetez un journal, quel qu'il soit, entre près de deux tiers de ce que vous payez, ce sont ces trois coûts. Et vous avez une invention technologique qui les supprime. Cela prendra du temps, il y aura d'autres modalités, il y aura... Mais la destruction est inévitable. La crise du modèle économique, commercial, éditorial, de l'objet quotidien imprimé papier est inévitable. Quand vous avez, qui plus est, une révolution technologique qui met le lien au cœur de sa production, qui n'a pas de contrainte de longueur, qui permet, j'y reviendrai, c'est le cœur de l'enjeu démocratique, au lecteur de participer, d'interpeller, de critiquer, de prolonger, l'objet journal, qui est un objet clos, un objet limité, il est là aussi en péril. Alors, ça ne veut pas dire du tout, aucun média ne tue le précédent. La fin du papier, au sens du livre, la fin de la lecture linéaire, qui existe évidemment toujours, elle existait déjà avec le papyrus, parce qu'elle correspond à l'esprit humain. Mais je parle bien au cœur de la vie démocratique, le journal. La démocratie, ce n'est pas tous les trimestres, ce n'est pas tous les mois, c'est tous les jours. Et le journal, c'est des agendas de la démocratie. C'est pour ça que le pluralisme est essentiel. Et il est clair qu'aujourd'hui, pour moi, le point de non-retour, c'est que cet enjeu, là, se jouera là-dessus. Il y aura, selon les modèles, peut-être des déclinaisons de papier. Mais, fondamentalement, cette vieille presse, comme je dis, au sens, ce n'est pas péjoratif, au sens d'un âge de la presse dont je fus, elle est condamnée en termes de presse quotidienne. Et donc, les autres modèles doivent s'inventer autrement, et c'est le sens, ce sera ma seule allusion, on pourra en débattre tout à l'heure, du laboratoire que veut être Mediapart par rapport à cela. Mais, en même temps que je dis ça, vous voyez bien que dans ce moment-là, quand je dis que c'est une bataille, ben, c'est une crise. Ben, cette crise, vous la voyez, la bataille, la propriété des journaux. Ah oui, monsieur Jeff Bezos, Amazon rachète le Washington Post. Il ne sait pas faire des journaux et son métier n'est pas de l'information. Mais il achète de l'influence, comme monsieur Niel et d'autres qui ont racheté Le Monde. La propriété de ces médias par d'autres géants du net qui viennent du numérique est en jeu. La crise se joue aussi en termes de droit de la presse. Regardez les décisions contre lesquelles se bat Mediapart. Quand on était journaliste avant, dans la presse papier, on publie un document confidentiel. Et le droit de la presse, de notre jurisprudence républicaine, dit « ce document confidentiel, on vous poursuit dans le cadre du droit de la presse. » Et vous montrez que c'était légitime de le publier. On appelle ça l'intérêt public, la légitimité du but poursuivi. Vous montrez que vous avez prouvé la vérité de l'information, ça c'est l'exception de vérité en droit, ou bien vous prouvez ce qu'on appelait votre bonne foi. Vous dites, regardez, c'était légitime, mon enquête est sérieuse, j'ai respecté le contradictoire. Bah, c'est du papier. Aujourd'hui, il y a du son, oui. Et il y a de l'image, oui. Et là, on est devant des décisions de justice qui disent, le son en soi, c'est interdit. Hors de tout contexte. C'est ça la décision Bettencourt contre Mediapart, et c'est celle-là que veut utiliser M. Dassault. Une décision qui dit, si vous enregistrez quelqu'un à son insu, avec ces machines-là, et que vous diffusez ce son, c'est en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée. Alors qu'avant, on disait non, il y a un droit fondamental, qui est le droit d'information, et il peut parfois être supérieur à d'autres droits. Le secret des affaires, le secret de la défense, et voire l'intimité de la vie privée, si vous révélez en fait des délits, et non pas l'intimité de quelqu'un. Et donc, on est au cœur de cela, où on nous oppose par rapport à une crispation sur le danger d'une démocratisation de l'information, d'une démocratisation de ses moyens. Donc vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Comme j'ai dit, de la même manière que vous voyez des nouvelles puissances économiques essayer, à l'occasion de la faiblesse de la vieille presse, de rentrer dans le jeu, de devenir des acteurs de l'information, au risque des conflits d'intérêts que vous connaissez tous sur les médias, que je n'ai pas besoin de vous détailler sur la France. Mais vous voyez de la même manière comment le vieux droit démocratique, républicain, sur la liberté de l'information, peut régresser. Aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de nouveau droit, c'est que c'est l'ancien droit qui est mis en cause. Comme on pourrait le dire sur la démocratie américaine, ce qui s'est joué sur le soldat Manning, sur Edward Snowden, sur la persécution de Glenn Greenwald, des gens dont je vais reparler, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une régression de la culture de la démocratie américaine elle-même. Le pays du Freedom of Information Act, du First Amendment, du free speech, de ce droit fondamental à l'information, et qui, de ce point de vue, l'a défendu très souvent comme un élément du conflit démocratique et comme un élément nécessaire. Donc voilà mes deux points. Cette chronologie, ces révolutions industrielles qu'il faut voir comme une des clés de nos bouleversements et qui appellent toujours des nouveaux âges démocratiques et qui sont au cœur de la clé. Ce n'est pas une fatalité ce que nous vivons, c'est ça que je veux vous dire. Ce n'est pas des méchants qui veulent nous persécuter. Il y a un vrai bouleversement. Et là-dedans, il y a des méchants. Mais cette fatalité, elle nous ouvre des possibilités. Et c'est là la bataille. Et comme ça a été le cas pour les idéaux progressistes à chaque moment de ces révolutions industrielles. Et dans ce moment-là, évidemment, une bataille profonde sur l'usage social qu'on en fait. Mais il y a quelque chose de plus. Je n'aurais pas dit ça il y a 5 ans, 6 ans, au début de cette conversion au numérique. Mais maintenant, j'en suis convaincu. Je pense qu'il y a une dimension nouvelle, une dimension plus essentielle. Je pense que le numérique, culturellement, est une révolution de la même ampleur que l'invention de l'imprimerie. Et je pense que de ce point de vue, en dehors des comparaisons que je viens faire, notre âge correspond plutôt, en résonance, à ce qui s'est passé au XVe et au XVIe siècle. En clair, l'époque de la Renaissance, l'époque des grandes découvertes, l'époque du décentrement du monde de la Méditerranée à l'Atlantique, l'époque du surgissement de la question de l'autre avec la découverte des sauvages, nus, féroces et anthropophages, l'époque évidemment de ce grand moment de basculement qui est à la fois celui où vont naître les idéaux des Lumières, où Montaigne va écrire les essais dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il meurt 100 ans après le départ de Christophe Colomb pour inventer l'Amérique en cherchant l'Orient, et en fait inventer l'Occident en tournant le dos à l'Orient. C'est un moment très semblable, moment d'immenses découvertes, d'immenses bouleversements intellectuels, et en même temps de fermeture, d'ouverture. Colomb s'en va, c'est le moment de l'expulsion des Juifs. Ça va être à la fois l'étonnement, la découverte des questions qui vont nous faire basculer dans l'humanisme, et en même temps le moment de la limpieza des sangres dans le colonialisme espagnol, de la pureté de sang. Ça va être le moment de la persécution des morisques, les musulmans. Tout cela va être le moment. Ça va être le moment de la guerre, des guerres de religion chez nous. Quand Montaigne, qui écrit avec auprès de lui quelqu'un qui était dans un des petites expériences françaises, c'était dans la baie de Rio de Janeiro, au Brésil, et qui était son intendant. Et il y avait des Americanas dans sa tour quand il écrit. Et quand il écrit ce fameux passage sur les cannibales, hein, où il dit qu'est-ce qui est le plus féroce, il faut toujours relire quand on entend dire « Ah, les vilains barbares là-bas, etc. Hein, » il dit « Qu'est-ce qui est le plus féroce ? Manger de l'homme mort ?» que l'on a boucané dans le cadre d'un rituel pour s'approprier sa force parce que c'est son ennemi, ou écartelé de l'homme vif comme on le fait chez nous. Qu'est-ce qui est le plus cruel? Et là, il dit, chacun trouve barbare ce qui n'est pas de son usage. Donc, nous sommes dans quelque chose, dans un moment qui, pour moi, en écho, me fait penser à cela, et je l'ai écrit un an après 2001 dans la découverte du monde. Pourquoi je vous fais ce grand rappel? Parce qu'au départ, au milieu du XVe siècle, il y a une invention, c'est l'imprimerie. Et là, je voudrais vous citer, juste, je ne vais pas abuser des citations, une découverte récente que j'ai faite. Moment de la découverte de l'imprimerie. Je ne l'ai pas amené, je pense. Je croyais qu'elle était sur ce cahier-là, je suis désolé. Je suis en train de découvrir qu'elle n'est pas sur ce cahier-là. Non, écoutez, je suis désolé, c'était sur un autre cahier. Alors, je vais vous la citer de mémoire. C'est un moine qui écrit dans un texte, donc deuxième moitié du XVe siècle, et en termes très choisis, et il dit, mais au fond, il y a une catastrophe qui est à venir. Et il ne se trompe pas, il y aura la contre-réforme, il y aura les idées des Lumières. Et il dit, la catastrophe, c'est que jusque-là, nous étions propriétaires du savoir. Nous tenions sa langue, le latin, nous tenions les manuscrits avec les enluminures dans nos monastères, et là désormais, ils vont vouloir avoir tous accès au savoir. Eh bien, je pense que le numérique est une révolution de la même ampleur, dont nous ne voyons pas encore toutes les conséquences pour l'éducation, pour la circulation des savoirs, pour leur démocratisation, pour la circulation des informations sur le présent. Le numérique, potentiellement, c'est pas seulement l'idée de l'accès au savoir, c'est désormais la démocratisation de la production des savoirs. C'est l'ébranlement des sachants. C'est cette idée que derrière le mot « expert », il n'y a pas que la traduction qu'on en donne, les sachants qui d'en haut vont nous dire ce qu'il en est. Il y a derrière le mot « expérience ». Et que nous sommes ouvriers, employés, mais nous avons des savoirs et des connaissances à faire partager. Nous sommes des cadres, nous sommes des travailleurs, nous avons des savoirs. Et nous vieillissons et nous vivons plus longtemps, eh bien, nous avons la possibilité de faire partager des savoirs. que le savoir n'est plus dans cette relation verticale avec ses propriétaires et ses autorités. C'est un ébranlement immense. Et c'est un ébranlement qui pose plein de questions que vous retrouverez anecdotiquement dans ceux qui disent « Mais sur Twitter, il y a plein de choses, il y a des appels au meurtre, mais sur les blogs, ils disent n'importe quoi. » Cette crispation face au n'importe quoi qui s'exprime. Mais derrière ce n'importe quoi, il y a aussi plein de pépites. Il y a ce désordre de l'expression qui sort de la production des savoirs. Et là, c'est un événement décisif. Et d'une certaine manière, ce que a mis en scène l'événement Wikileaks, les suites, Cablegate, toutes ces informations jusqu'au dernier épisode Snowden, vous voyez comment, là aussi, c'est un ébranlement des professionnels de l'information. Monsieur Manning, jeune soldat, ne rendra jamais assez hommage au courage. Vous vous rendez compte, vous avez 21 ans, 22 ans, vous êtes perdu sur une base en Irak. Et il a cette audace d'un engagement solitaire formidable. Qu'aurait été-il dans l'ancien monde de l'information? Il aurait été une source protégé par le secret des sources. Il aurait appelé un journaliste, et c'est le journaliste qui l'aurait protégé, comme Donald Herzberg, au moment des Pentagon Papers sur la guerre du Vietnam, qui a affilé près de 5000 pages de documents du Pentagone, était une source du New York Times, et a été défendu comme tel. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il est de ce nouveau monde, et il va contacter par des réseaux cette ONG atypique, Wikileaks. Et il va se faire trahir par un ancien hacker qui collaborait à Wired et qui va se retourner au profit du FBI. Mais il est dans ce monde. Et donc, du coup, il contacte ce monde-là, pas un journaliste. C'est ça qui fait la naissance véritable de Wikileaks, c'est ces informations-là, avec la première information qui est cette vidéo, Collateral Murder, sur un crime de l'armée américaine en Irak, où on entend tout, on voit les images, on entend le son et on voit comment des Irakiens sont canardés par un hélicoptère Apache alors que ce qui était pris pour des armes, c'était des caméras car il y avait deux collaborateurs de l'agence Reuters. Aucun des militaires qui a participé à ce crime n'a été poursuivi, n'a été condamné. C'est la première révélation de Manning. Pour ça que j'insiste sur son courage. Et pareil, Snowden. Il est jeune analyste de la CIA dans ce monde tentaculaire de la National Security Agency où le numérique est pris comme un instrument non le terrorisme et le cheval de Troie, c'est un alibi. L'utilité, c'est l'espionnage économique, c'est ça la clé. Surveiller la population, certes, mais c'est surtout, et c'est la clé de la faiblesse de nos gouvernants, c'est que le cœur des révélations de Snowden, c'est que s'il y a 15% pour le terrorisme, le reste, c'est espionner les alliés dans la guerre de puissance. Car le monde est ébranlé. Oui, il y a le Brésil. Et d'ailleurs, lui, le Brésil, il proteste. Lui, il va aux Nations Unies. Lui, il mène la guerre. Parce que c'est lui qui est visé. C'est l'enjeu économique. Et il y a le Brésil, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud, il y a ces nouveaux acteurs. Et du coup, on espionne les alliés. Et on espionne les alliés économiquement. Et on espionne la France, oui. Et on espionne l'Allemagne. Et on espionne le premier rival, qui est l'Union européenne. C'est ça la clé des révélations. Et c'est ça qu'ils essayent d'étouffer. La clé des révélations, c'est de montrer que les États-Unis espionnent leurs alliés dans une compétition économique. Et donc Snowden, il a ces infos. Qui va-t-il contacter? Non pas un journaliste. Il va contacter qui? Glenn Greenwald. Qui est Glenn Greenwald? Glenn Greenwald, c'est un avocat. Un avocat qui était un avocat du monde des affaires. Un libéral. Mais aux deux sens du terme, un libéral économique, mais aussi un libéral politique, qui a été choqué par la régression du droit que signifie le Patriot Act, voté à une voix seulement contre sous le choc du 11 septembre 2001. Et du coup, il contacte cet avocat qui, sous ce choc juridique, a quitté le monde des affaires pour devenir un blogueur. Et du coup, les grands médias l'ont repéré, d'abord le New York Times et puis maintenant le Guardian. Et donc, il contacte ce militant. Ce militant isolé, comme c'est des aventures personnelles, où ils inventent, d'une certaine manière, les batailles d'une autre manière. Et derrière Greenwald, il y a qui? Il y a une femme qui s'appelle Poitras, j'ai oublié son prénom, qui vit à Berlin, qui est une documentariste. Et simplement, elle a été en Irak, et elle a vu tout ce qui se passait, et du coup, elle est rentrée dans une logique militante avec ses nouvelles armes. Et donc, vous voyez un nouveau monde, quand on parle des lanceurs d'alerte, On parle de ce nouveau monde où le citoyen devient acteur de l'information. Et il ne sait plus seulement les professionnels. Où il y a une nouvelle alliance. Et c'est ce qui se joue aussi dans le fait que les enseignants se disent « Comment je fais avec une classe qui peut aller sur Google et aller sur Wikipédia et aller chercher ?» Et oui, ce monde-là existe. La classe n'est pas enfermée par rapport à ce monde-là. Et ils peuvent trouver leurs informations et comment vont-ils faire leur chemin ? Et ils peuvent vérifier, recouper, discuter, contredire et aussi produire leur propre récit. C'est là où j'en viens à la deuxième partie. J'ai fait ce paysage à grands traits pour montrer comment il est une occasion formidable pour mettre au cœur de la bataille la question démocratique. Je l'ai dit souvent, pour moi la question démocratique est la clé de la question sociale. Elles sont indissociables. Et je pense qu'une des grand chagrin de la gauche au XXe siècle, c'est la dissociation de l'une et de l'autre. Je suis d'une histoire personnelle, intellectuelle, d'un chemin personnel, politique, professionnel, qui lie profondément ça. L'exigence sociale est totalement imbriquée à l'exigence démocratique. Pourquoi ? Entendons-nous par qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Qu'est-ce qu'on entend par la démocratie ? C'est donc mon deuxième point. La démocratie, je l'explique en détail, voilà, dans ce livre qui est sorti cette année, Le droit de savoir, la démocratie, je m'appuie sur des auteurs que pour certains vous connaissez, Jacques Rancière, Cornelius Castoriadis, la démocratie comme idéal, comme horizon, comme bataille permanente, comme inachèvement permanent, comme toute révolution sera toujours permanente, c'est le régime de n'importe qui. C'est ça le scandale démocratique. C'est ça la provocation pour la pensée de la démocratie. Sans privilège de naissance, sans privilège de fortune, sans privilège d'origine, sans privilège de diplôme, j'ai le droit de m'en mêler. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de protester, j'ai le droit de parler, j'ai le droit d'écrire, j'ai le droit de voter. Et au scandale, j'ai même le droit de me présenter, d'être élu, et voire de gouverner, sans privilège. Dans l'accélération révolutionnaire de 1789, création de l'Assemblée au printemps, le peuple rejoint en prenant la Bastille, et ça donne l'accélération, et le vrai moment, serment du Jean de Paume, Assemblée, 14 juillet, Bastille, et hop, la nuit du 4 août, ce moment fou, l'abolition des privilèges. Quelle rupture ! Une société immobile. Immobile où on est fixé par la naissance. Et vous voyez bien comment c'est une provocation qui va au-delà. Certes, nous ne sommes plus dans des sociétés de caste, mais cette question est un enjeu démocratique tout le temps. C'est quoi l'ascenseur social ? C'est quoi pouvoir bouger ? C'est quoi pouvoir accès à des diplômes ? C'est quoi pouvoir se passer d'un pays à l'autre ? C'est quoi pouvoir se déplacer ? C'est le propre de l'homme. C'est ça, notre liberté démocratique essentielle. Donc, cette idée du n'importe qui, elle est au cœur de l'idéal démocratique. Et elle sera toujours un scandale, confronté toujours à la renaissance de nouvelles oligarchies. Nous aurons toujours des oligarchies à combattre. Et des oligarchies cyniques, nous les connaissons d'aujourd'hui, qui ont peur. Les oligarchies du pouvoir et de l'avoir. Du pouvoir politique et de l'avoir économique. Mais il y aura même des oligarchies qui se croient désintéressées. J'ai la naissance, j'ai donc les réseaux, je sais mieux que le peuple ce qui est bien pour lui, je saurai mieux faire. J'ai la fortune, j'ai les moyens, je serai plus efficace. Ah, j'ai les diplômes, je suis plus sachant que vous, écoutez-moi, je sais mieux que vous ce qui est bon pour, sur tel ou tel sujet. Mais je n'ai pas envie d'en débattre, mon savoir est à lui seul, ma compétence, et vous ne l'avez pas, et vous ne pouvez pas discuter avec moi, vous n'êtes pas de mon niveau. Cette provocation-là, elle existera toujours, mais nous connaissons assez notre histoire pour savoir qu'elle est au cœur même de l'histoire dont nous sommes comptables. Car il y a aussi des oligarchies nées de l'idéalisation des avant-gardes. c'est compliqué de renverser le vieux monde. Donc oui, il faut des avant-gardes qui s'y préparent. Mais ces avant-gardes, à un moment, elles pensent qu'elles savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Et ça donne, oui, la révolution russe, à un moment, née d'une dynamique, est une dynamique du n'importe qui. C'est quoi les soviets? C'est quoi la délibération démocratique des soviets? C'est quoi Trotsky, élu président du soviet de Petrograd en 1905? C'est ça. Et puis tout d'un coup, à un moment, sous les pressions de circonstances qu'on voit bien, eh ben, à un moment, hop, on s'éloigne de ce n'importe qui. Et du coup, on bascule dans autre chose qui va créer les bureaucraties et les autres inégalités qu'on connaît. On pourrait dire la même chose. Le comité de salut public est une dictature d'assemblée qui vient de cette dynamique révolutionnaire. Mais à un moment, il s'éloigne de ses propres promesses, celles parce que la guerre, parce que ceci, de ses propres promesses qui étaient inscrites dans la Constitution de 1793, de l'an 1 de la République et de la formidable Déclaration des droits de l'homme de l'époque. Cette question du n'importe qui est la question la plus difficile, mais la plus essentielle, et qui est en jeu aujourd'hui dans ce moment de crispation des oligarchies. Des oligarchies qui se crispent en faisant régresser la question démocratique, en basculant dans des logiques d'état d'exception. C'est bien ce que l'on voit à l'œuvre dans toutes les batailles que nous avons à mener aujourd'hui. Alors si on dit que la démocratie, c'est le régime de n'importe qui, en découle une question essentielle qui ne vous réconciliera pas avec les journalistes, et vous avez toutes les raisons, comme tous les journalistes eux-mêmes ont plein de raisons d'être critiques sur les journalistes, mais qui vous réconciliera avec le fait qu'il faut se battre pour que les journalistes soient meilleurs. Parce que si c'est le n'importe qui, ben comment je vais exercer mon pouvoir du n'importe qui? Moi qui ne suis pas bien né, moi qui n'ai pas la fortune, moi qui n'ai pas les diplômes. Eh bien, il faut que je sache. Si je ne suis pas informé, comment je peux être libre et autonome dans mes choix? Cette question devient essentielle. Il faut que j'ai l'instrument du savoir sur le présent. Il faut qu'il se diffuse, il faut que je puisse le partager. Ou autrement, je vais être pris dans l'idéologie, dans le mensonge, dans la tromperie, dans la passion. Les autres vont savoir, les autres auront les informations, et moi, je serai dépouillé de ce levier essentiel. Cette phrase exceptionnelle que prononce Bailly, il sera guillotiné parce qu'il passera à la droite de la Révolution à un moment, Bailly, qui était le premier président du tiers-état et qui fut le premier maire de Paris. Il y a une phrase à l'été 89, mais qui est d'une modernité formidable. « La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public, tout ce qui est public doit être public. Ça doit se faire sous le regard du public. On doit savoir ce qu'il y a dans les livres, ce qu'il y a dans les textes, ce qu'il y a dans les votes, ce qu'il y a dans les résolutions. On doit savoir. C'est pour ça que la Révolution française est souvent qualifiée de révolution du journal. On diffuse, et on diffuse. C'est comme les blogs, parce qu'il y avait les nouvelles à la main. Hein, imprimer, ça coûte cher, parfois. Donc il y avait, au Palais Royal, on recopiait. Alors, les nouvelles à la main, c'est comme les sites internet. Il y avait chose formidable. Ce que j'ai entendu à la Convention, à la Constituante, les débats, etc. Mais il y avait aussi la reine scélérate, les coucheries de Marie-Antoinette, etc. Il y avait tout ça à la fois, tout ça. Mais il y avait ce bouillonnement. Le droit de savoir devient un élément essentiel. Devient un élément essentiel parce que on est au cœur aussi, je vous ai dit, le n'importe qui, le droit, au fond, de sortir de la fixité. C'est quoi la vertu démocratique d'une information véritable, d'une information qui est un événement authentique? Ben, c'est qu'elle nous oblige à réfléchir. Elle nous oblige à bouger. On se retrouve tout d'un coup au café avec des gens qui ne pensaient pas comme nous, avec qui on s'engueulait, on n'arrivait plus à parler, et tout d'un coup qui sont obligés d'être confrontés à une information. Ah, j'aurais pas cru. Ah ben oui, vraiment. Non, Cahuzac, alors là, vraiment, j'aurais pas pensé. T'étais sûr, vraiment? Ah ben alors là, ça change. Et là, ça, et du coup, ça fait l'effet que vous connaissez, quel que soit le résultat des mesures. Ah ben oui, il n'y avait pas besoin de Cahuzac pour savoir que la lutte contre l'évasion fiscale est une lutte centrale, que c'est un crime, que c'est un dépouillement des nations, qu'il y a des avoirs financiers dans les paradis fiscaux supérieurs au PIB réunis des États-Unis et du Japon. Nous l'avions écrit bien avant l'affaire Cahuzac. Mais l'affaire Cahuzac est un événement qui oblige à se dire « Mais attendez, on ne peut pas rester ça. Il y a une vertu de l'événement. » Et qui fait bouger les lignes, et dont on doit s'emparer. Et donc, c'est l'idée du mouvement, c'est l'idée du déplacement. Parce que Comment on fait bouger des gens? Bien sûr, on leur amène des brochures, on leur dit « lisez notre programme, votez pour nous ». Mais d'accord, mais ça ne suffit pas. Les gens ont leurs préjugés, ont leur histoire. Comment ils se déplacent? Ils se déplacent par rapport à leur origine, à leur situation sociale, à leurs croyances, à leurs préjugés. Ils se déplacent parce qu'il y a la vitalité de cet espace public. C'est essentiel. La démocratie, le n'importe qui, le droit de savoir. Mais là, on arrive à une autre question. Et qui crée parfois, avec le monde militant, j'en fus, hein, et j'ai en même temps une conviction d'engagement dans le journalisme, qui crée parfois des malentendus, que je voudrais expliquer. Qu'est cette question de l'information? Nous avons tous des opinions. Nous avons tous des convictions. Le problème, c'est qu'il nous faut être capable d'accepter des informations qui bousculent nos convictions. Je cite souvent cette phrase de Nietzsche, hein, « Le pire ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, ce sont les convictions. » Nous n'aimons pas voir ce qui nous dérange. Or, nous avons besoin de ça. Je viens d'une histoire personnelle, culturelle, que j'assume, que j'ai racontée, où on n'hésitait pas à publier des journaux en les intitulant « La vérité ». Parce qu'à l'époque, le mensonge dominait à gauche. Ah oui, on ne pouvait pas désespérer le monde ouvrier en disant qu'il y avait le goulag en Union soviétique. On ne pouvait pas désespérer le monde ouvrier en disant que les procès de Moscou s'étaient truqués. Ah oui. Et du coup, on était des vilains hitlero-trotskistes si on faisait ça. On était des alliés du nazisme. Et il fallait assumer ces vérités. Ça ne voulait pas dire qu'on passait du côté de la réaction. Ça voulait dire qu'il fallait assumer les vérités qui dérangeaient, qui bousculaient, qui posaient des questions à la gauche. Et c'est une question essentielle, qui est pour moi cette question de ce que la philosophe Hannah Arendt, qui est restée jusqu'au bout fidèle à Rosa Luxembourg, disait les vérités de fait. Il y a deux types de vérités dans notre vie personnelle, intellectuelle. Et tout. Il y a des vérités d'opinion. Le cerveau humain en produira toujours des millions, des milliards, etc. Il y en aura des raisonnables, des sérieuses, des progressistes, et il y en aura des effroyables, des irrationnels, des meurtrières. Il y a des vérités d'opinion. Le problème, c'est, et c'est l'enjeu d'un monde de la raison, d'un monde d'une haute démocratie, c'est de mettre au cœur de ce débat des vérités d'opinion les vérités de fait. Les vérités de fait. Sur le présent et sur le passé, lequel présent est plein de passé. Le passé lui-même est plein d'à présent, il y a une imbrication. Donc ces vérités de fait, accepter de mettre les vérités de fait au cœur du débat. Donc accepter de créer les conditions où surgissent des vérités qui vont nous obliger à penser contre nous-mêmes. C'est là que pèse, c'est ma bataille dans ma profession, c'est là que pour moi pèse une responsabilité politique, essentielle pour le journalisme. Son rôle, son poids, mais c'est là que pèse de votre côté une exigence vis-à-vis du journalisme. Mettre ces vérités de fait au cœur du débat d'opinion. C'est une question décisive, parce que c'est une question qui est au cœur de la vitalité du conflit démocratique. Et c'est plus que jamais vrai. Car quel est l'effet essentiel de la révolution numérique et qui fait qu'il y a un vieux monde, y compris dans les médias ou dans la vie politique, qui est inquiet par ça. Je l'ai dit, aucune technologie n'est libératrice en soi, mais ce sont des accélérateurs formidables aussi, si on les démocratise dans leurs usages sociaux. Qu'est-ce que c'est que le numérique? C'est que désormais vous avez reconquis la liberté d'expression. Jusqu'au numérique, pour exister dans l'espace public, fallait passer par un journaliste. Fallait qu'il publie ma tribune, fallait qu'il tende son micro, fallait qu'il m'invite à son émission, fallait qu'il diffuse mes opinions, mon point de vue, fallait qu'il fasse un reportage sur notre lutte. Mais c'est fini, ça. Désormais, vous n'avez plus besoin pour défendre vos causes et vos opinions des journalistes. Vous y avez accès vous-même. Vous ne voulez pas entendre notre grève? On fait sur les réseaux sociaux, on fait notre blog, On va tenir un copier-coller, on va le copier-coller sur le club de Mediapart. On va le faire circuler horizontalement, on va envoyer les liens. On va diffuser nos vidéos, on va diffuser nos informations. Nos, parce que derrière nos opinions, il y a des informations, nos causes. On va lancer nos alertes. Et du coup, pour les journalistes, j'estime que c'est la meilleure nouvelle qui puisse leur arriver. Ils sont descendus de l'estrade. Ils sont descendus de ce privilège qu'ils avaient injustement conquis en France et que l'on voit dans certaines figures du journalisme. Au-delà des personnes, la crispation de Jean-Michel Apathy sur Mediapart illustre ça. Derrière, il faut essayer toujours de penser les choses, hein, et d'essayer de leur donner du sens. C'est quoi la crispation de Jean-Michel Apathy? Vous ne le savez pas, mais vous savez, il faut savoir que Jean-Michel Apathy a commencé dans la profession à Politis. Donc c'est un long chemin quand même.